Ouais, bonjour à tous. C'est toujours une grâce de se retrouver ensemble pour pouvoir louer notre Dieu ensemble. Et nous voulons vraiment lui donner toute la gloire pour cette grâce qu'il nous accorde jour après jour, des choses qu'on ne mérite pas, mais que lui nous donne par sa grâce. Avant de méditer la parole de Dieu ensemble, prions d'abord. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta face. Parle dans nos cœurs, car nous avons de ta parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Seigneur, prépare le cœur d'un chacun, prépare nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole comme venant de toi, Seigneur. Conduis-moi aussi, ton pauvre serviteur, Seigneur. Purifie toutes choses en moi et conduis-moi. Que je puisse m'effacer, que toi, tu puisses prendre le devant. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel dans l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 12. Et le livre de Samuel vient juste après le livre de Ruth. 2 Samuel, chapitre 12, et nous allons lire les 15 premiers versets. 2 Samuel 12, versets 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 12 et le premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, l'Égyptien. Tu as pris sa femme et pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le tien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, Éternel, pardonne ton péché. Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra, et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. C'est la parole du Seigneur. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « Rien n'est caché devant Dieu ». Rien n'est caché devant Dieu. Chers frères et sœurs, l'histoire de la confrontation entre les prophètes Nathan et David nous enseigne l'importance d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, les paroles de Dieu ne sont pas toujours agréables, mais ses paroles, sa voix, nous conduisent toujours au salut. Conduisent toujours au salut. Nathan était l'instrument que Dieu a utilisé pour David. Nathan était la voix de Dieu pour David. Et nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de cette histoire. Le chapitre 11 parle de David et de Bathsheba. Raison pour laquelle Nathan confronte David au chapitre 12. Et nous voyons dans cette histoire, au début de ce chapitre 12, nous voyons comment les plus forts, les plus riches profitent du plus faible, du plus pauvre. Et frères et sœurs, cela n'a pas changé aujourd'hui. Cela n'a pas changé de nos jours. Nous le voyons. Des gens qui embauchent des travailleurs et qui ne veulent pas les payer. Nous voyons comment un poste où il faut mettre 3 personnes, mais le patron met 1 seule personne. Nous voyons comment les plus forts, les plus riches, ils profitent toujours des plus forts, des plus faibles, pardon, et cela continue aujourd'hui. Et en lisant le chapitre 11, nous voyons que ce chapitre 11 se termine avec cette étiquette de péché d'adultère, de péché de meurtre collé sur le roi David. Collé sur le roi David. Et si vous vous arrêtez seulement au chapitre 11, vous allez rester sur cet aspect-là de péché d'adultère et de meurtre de David. Mais par contre, si vous lisez le chapitre 12 nous montre le moyen le plus efficace utilisé par David, employé par David pour résoudre ce problème de péché. Alors ce matin, nous voulons voir 3 points. Le premier point, c'est le péché de David. Le deuxième point, l'obéissance et le courage de Nathan. Et enfin, le troisième point, la confession et le pardon de David. Le péché de David. Après avoir été béni par l'Éternel de plusieurs manières, le roi est tombé dans un péché profond. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de son fidèle soldat. Elle est tombée enceinte et David a essayé de couvrir cela. Il a donné l'ordre à Uri, le mari de Bathsheba, de rentrer chez lui à la maison et à passer du temps avec sa femme pour que personne ne puisse découvrir que c'est lui, David, qui est le père biologique de l'enfant qui va naître. Il a essayé de le couvrir dans ce sens-là. Mais lorsque cela n'a pas suffi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comploté pour faire tuer le mari de Bathsheba, Uri. Il envoya au combat sur la ligne de front, la première ligne de front, Les militaires savent quand on leur dit que vous serez à la première ligne de front, c'est-à-dire c'est vous qui êtes vraiment face à face de l'ennemi. Donc vous avez beaucoup plus de risques de tomber. Alors, c'est ce qui s'est passé. Le mari de Bathsheba, Uri, est mort au combat. Et nous pouvons dire, c'est le crime parfait, sans trace, parce que c'est ce que David voulait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait David? Pour camoufler tout cela, il a épousé Bathsheba. Frères et sœurs, on ne résout pas le problème du péché en commettant un autre péché. Non, ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème du péché. Nous voyons dans cette histoire comment un péché a engendré un autre péché. En commettant ce péché, il essaye de les cacher en commettant encore un autre péché. Son premier péché a finalement conduit à une tentative de dissimulation impliquant la mort du mari de Bathsheba. Un homme innocent. Un homme innocent qui est mort, entre guillemets, pour rien. Il y a un langage ivoirien qui dit, il est mort cadeau. Innocent pour rien. Pour rien. Où est le problème du riz dans tout cela? Le pauvre. Où est son problème? Quel mal il a fait, le pauvre? Un innocent est mort. Tout cela à cause du péché de David. Oui, et David a gardé son péché dans son cœur. Mais il avait oublié une chose, que Dieu a tout vu. Dieu a tout vu dans tous les détails. Et on nous a parlé ce matin de l'omniscience de Dieu. Notre pasteur nous a parlé lors de la présidence ce matin. L'omniscience de Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu contrôle tout. Rien n'est caché devant sa face. Pourquoi? Parce que il pensait qu'il ne serait pas découvert, personne ne le saura. Mais le verset 27 du chapitre 11, 2 Samuel 11, 27 dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Si cela a déplu à l'Éternel, c'est que Dieu a tout vu, a tout entendu, a tout compris. Rien n'est caché devant sa face, rien. Si nous les hommes aujourd'hui, on a quand même le moyen de savoir ce que mon fils, pas tout, mais certaines choses qu'il a fait hier ou ce matin, et vous pensez que Dieu, le Tout-Puissant, ne pourra pas le savoir. Si aujourd'hui, il y a un problème, la police fait une enquête, il demande à votre opérateur téléphonique, pour votre téléphone portable, que donnez-moi le relevé des appels de M. Marcel de la journée d'hier, 13 juin. Et mon opérateur téléphonique va sortir toute la liste de toutes les personnes, tous les numéros que j'ai appelés, à quelle heure j'ai appelé. Même les SMS, ils conservent cela. Ils peuvent même leur donner les SMS, ce que j'ai écrit. Si la technologie actuelle peut faire cela, peut comprendre cela, peut voir cela, et vous pensez que le Dieu qui est le Tout-Puissant, il ne peut pas savoir ce qu'on fait en cachette, en catimini? Pouvons-nous vraiment lui cacher quelque chose? David pensait qu'il allait cacher cela. Mais la Bible dit, ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. Rien n'est caché devant lui. Le péché, son péché, a fait oublier Dieu. David, parce que Dieu ne voyait pas, que Dieu n'est pas là, Dieu ne peut tout comprendre. Mais le péché nous fait oublier Dieu, chers frères et sœurs. Le psaume 139, Le verset 2 à 3 dit ceci. Dieu voit tout. Il sait quand je marche et quand je me couche. Il sait quand je m'assis et quand je me lève. Il connaît et il pénètre de loin nos pensées. Psaume 139, 2 à 3. Et vous lire tous les psaumes 139 qui nous montrent vraiment l'omniscience de Dieu. Que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu comprend tout. Rien n'est caché devant sa face. Et David a oublié cela. Il n'y a pas de péché secret. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de péché secret. Quel que soit le péché. Vous pouvez le cacher à tous les hommes, mais vous ne le cacherez jamais à Dieu. Judas avait très bien gardé ses ambitions. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit aux 12? Il a dit que l'un d'entre vous me trahira. L'un d'entre vous est démon. Et les disciples se demandèrent, est-ce moi? Alors que Judas avait bien caché son jeu. Mais il ne pouvait pas le cacher à Jésus-Christ. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Chers frères et sœurs, Matthieu chapitre 10, verset 26, nous dit ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Rien. Tout est à découvert devant Dieu, car il sait tout. Et David croyait qu'il pouvait bien garder son péché secret. Mais Dieu a tout compris, a tout pris. Parce que cela a déplu à Dieu. Le deuxième point, c'est le courage et l'obéissance de Nathan. La première fois que la Bible parle de Nathan, c'est dans 2 Samuel au chapitre 7, à propos du désir de David de construire une maison pour Dieu. Nathan a été utilisé par le Seigneur à cette occasion pour donner à David la promesse de Dieu. La promesse que Dieu établirait la maison de David pour toujours. Nathan était prophète et conseiller royal au début du règne du roi Salomon. Mais Nathan était toujours prêt à dire la vérité, même lorsqu'il savait que cela pourrait lui coûter très, très cher. Et nous le voyons au chapitre 12 de 2 Samuel. Un temps s'est écoulé après que David a commis son péché d'adultère. Un temps s'est écoulé après que David a commis encore son péché de meurtre, fait tuer Uri. Un temps s'est écoulé entre le Dieu et l'intervention de Nathan. Entre ces deux péchés et l'intervention de Nathan, il y a eu un intervalle. Et pendant cet intervalle, pendant ce laps de temps, le roi continuait à vivre dans son péché sans s'inquiéter. Continuait à vivre dans son péché avec Bathsheba. Tant que la condamnation contre ses mauvaises actions n'était pas prononcée, il était à l'aise. Le cœur de David était toujours disposé à vivre dans le péché. Mais remarquons une chose au début du premier verset du chapitre 12 de 2 Samuel. Remarquons une chose, que c'est David qui n'a pas cherché Dieu. David n'a pas cherché Dieu. Ce n'est pas David qui a cherché Nathan. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative et envoyé Nathan vers David. C'est Dieu qui a pris cette initiative. La vérité est que le pécheur ne cherche jamais Dieu. Tant que Dieu ne le cherche pas. Nous pouvons citer notre exemple. La Bible dit que nous, qui autrefois nous étions ténèbres, nous marchions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espérance. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu vers nous. Dieu nous a cherchés. Dieu nous a trouvés. et Dieu nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Le verset 1 dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint vers lui. C'est Dieu qui est venu vers David. Dans son grand amour, Dieu avait un plan pour tendre la main à David, pour le récupérer, pour le restaurer. Et le fait que Dieu aimait David pour envoyer Nathan vers lui, nous encourage aussi aujourd'hui, chers frères et sœurs. Dieu est le même aujourd'hui qu'il était dans la vie de David. Il ne nous laissera pas dans notre péché, mais enverra toujours un Nathan pour nous appeler à la repentance, à la confession, à la restauration. Nathan a obéi à la voix de Dieu pour affronter David, mais il devait faire face à la réaction incertaine du roi, et en plus d'un roi coupable. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. David devait faire face à la réaction du roi, parce qu'il devait l'affronter, parce que Dieu lui a dit « va vers lui ». Affronter le roi seul face à face était risqué pour David. Sa tâche était loin d'être enviable, mais affronter le roi était nécessaire. Nous qui venons de pays où il y a la dictature, je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un pays où il y avait la dictature, je vous dis que ce n'est pas facile. Même pour prononcer même le nom du président de la République, tu es tout seul dans ta maison, tu as peur. Parce que moindre erreur, moindre dérapage, eh bien, on te crée une misère impossible. Et David devait affronter le roi, qui avait toute autorité. Oui, il était prêt à tout risquer pour le sauver. Ajoutez à cela que c'était le roi qui avait toute autorité, qui avait l'autorité absolue de vie et de mort sur ces sujets. À l'époque, c'était comme ça. Si le roi dit, condamnez-les à mort, on te tue tout de suite. À l'époque, c'était comme ça, dans l'Ancien Testament. Donc, il fallait affronter la fureur du roi. Proverbe 16, 14 dit ceci, la fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Et Nathan était un homme sage. Il affrontait le roi. Et il a aussi apaisé sa fureur. Ne sous-estimons pas l'obéissance et le courage du prophète Nathan dans cette situation, frères et sœurs. C'était une situation terrible pour Nathan. Mais Nathan a obéi à la voix de l'Éternel. Nous voyons en cela l'obéissance à l'Éternel, quel que soit le risque qu'il pouvait courir. L'obéissance de Nathan à la voix de Dieu nous enseigne l'importance d'écouter Dieu, même lorsqu'il nous demande de faire quelque chose qui n'est pas facile. Même lorsqu'il nous demande de faire ce qui n'est pas facile, nous devons obéir à la voix de notre Dieu. C'est ça l'obéissance à l'Éternel, à l'exemple de Nathan. Pour nous qui n'avons pas le prophète Nathan aujourd'hui dans nos vies, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette voix-là qui nous parle quand nous commettons des péchés. Personne ne dira que quand il fait quelque chose de mal, il n'y a rien qui se passe en lui. Non, je ne pense pas. Il y a toujours quelque chose qui te dit que Marcel, ce que tu veux faire, ce que tu fais là n'est pas bon, Marcel, où tu vas? Mais tu t'entêtes, tu y vas quand même. Mais le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs. Il n'y a pas Nathan, mais il y a le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit nous parle. La parole de Dieu nous parle. Et l'un des rôles du Saint-Esprit, d'après la parole de Dieu, c'est de convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Et à chaque fois, le Saint-Esprit nous convainc. Qu'on l'écoute ou qu'on ne l'écoute pas, le Saint-Esprit nous parle. Que le roi puisse écouter Nathan ou pas, mais Nathan allait parler au roi. Et le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Après le récit de l'homme riche qui avait pris l'unique brebis du pauvre, nous lisons au verset 5 que la colère du roi s'enflamma contre cet homme. Oui, parce que le verset 5 dit ceci, « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » David était en colère contre l'homme et a prononcé un jugement sévère, très sévère, qu'il mérite la mort. Frères et sœurs, des fois c'est surprenant et étonnant en même temps de voir à quel point nos péchés que moi je commets, mes péchés, nos péchés sont horribles pour nous quand quelqu'un d'autre les commet. Le même péché que toi tu fais, que toi tu commets, c'est pas horrible pour toi. Mais quand quelqu'un d'autre le fait, la même chose, non, c'est pas possible, non, il mérite la mort. C'est ce que David a fait. Il mérite la mort. Mais quelle a été la réponse de Nathan? Au verset 7, Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Tuez cet homme-là. Bien-aimé, ne pensons jamais une minute que le péché peut être caché avec succès pour toujours. Jamais. Que cela ne vous traverse même pas l'esprit. Jamais. Vous ne pouvez pas cacher avec succès pour toujours votre péché mignon que vous cachez, que vous dissimulez. Jamais. Dieu sait exactement là où il se trouve. Dieu sait exactement là où tu l'as enterré. Dieu le sait. Parce que rien n'est caché devant sa face. Il sait tout, il voit tout. David, après avoir écouté l'histoire de Nathan, il pouvait maintenant voir son péché dans cette histoire. David a vu son péché dans son histoire, mais pas en lui-même, mais dans l'histoire de Nathan. Donc, il a fallu une accusation directe, comme on dit en droit, que tu es cet homme-là de l'histoire que je viens de te raconter. Soyons prudents, frères et sœurs, lorsque nous jugeons les autres. Une chose qu'un homme ne peut pas savoir, une chose que nous ne pouvons pas savoir, c'est nous-mêmes. Une chose que toi tu ne peux pas savoir, frère, sœur, c'est toi-même. C'est toi-même. Mais par contre, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Matthieu chapitre 7, verset 3 dit ceci. Il est facile de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne pas voir la poutre qui est dans ton œil. C'est facile de voir la paille qui est dans l'œil de ta sœur. Mais la grosse poutre là, de 66 mètres qui est dans ton œil, tu la vois pas. Bien que l'œil ne mesure pas 66 mètres, c'est une image. Donc, tu ne la vois pas. David ne voyait pas la poutre qui était dans son œil. Mais il a vu la paille qui se trouvait dans l'homme riche qui a pris l'unique brebis de l'homme pauvre. Frères et sœurs, ne soyons pas aveugles, ne restons pas aveugles pour ne pas voir nos fautes. Quand elles sont signalées par d'autres personnes.
Des fois, nous sommes un peu réticents à accepter certaines choses. Quand un frère, quand une sœur te dit quelque chose, des fois nous avons du mal à accepter cela. Mais ne soyons pas aveugles, frère. Ne soyons pas là. Si quelqu'un te dit quelque chose, si c'est vrai, bien entendu, acceptons cela et demandons pardon. Et il peut arriver qu'un jour, Dieu peut utiliser aussi ma sœur, mon frère, pour affronter le péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Dieu peut utiliser. Et tu ne sauras pas à l'avance quelle sera la réaction de ce frère, de cette sœur, vers qui tu vas aller, vers qui le Seigneur t'a envoyé, comme ce fut le cas de Nathan. Nathan ne connaissait pas à l'avance la réaction du roi. Toi aussi, tu ne connaîtras jamais la réaction de ce frère avec qui tu vas aller parler, si Dieu t'envoie. Mais si tu obéis à cette voix qui te dit d'y aller, fais cela avec amour, avec sagesse, avec obéissance à la parole de Dieu, mais fais cela aussi avec amour pour cette personne vers qui tu vas. C'est ce que Nathan a fait. Nathan fait cela par amour, par obéissance à Dieu, et il a fait cela aussi par amour pour sauver David. Il savait que en faisant cela, le cœur du roi allait être blessé. Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbes 27, chapitre 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers sont trompeurs. C'est vrai, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ami sont trompeurs. Les baisers de Juda à Jésus-Christ lors de son arrestation étaient trompeurs. Nathan est triste pour David et nous voyons sa tristesse dans sa voix. Nous voyons la tristesse de David dans sa voix même. Quand il pose cette question à David au verset 9, Nathan pose cette question à David. Pourquoi donc as-tu maîtrisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, l'Éthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée. Nous voyons même la tristesse dans sa voix. Et il dit aussi quelque chose d'important. Il dit, pourquoi t'as fait cela après que le Seigneur a été si bon envers toi? Nathan lui rappelle la bonté de Dieu. Nathan n'est pas parti comme ça, n'importe comment, vers David. Il commence d'abord par faire un rappel. Il lui rappelle la bonté de Dieu. Il lui dit, mais l'Éternel dit, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Mais pourquoi tu as fait cela? Regarde la bonté de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Pourquoi tu as fait cela? Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux et trompeur. La Bible dit, Jérémie 17, 9 à 10, nous dit cela. Parce que Nathan était triste de voir celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu puisse tomber si bas que ça. Et ça a attristé David. L'homme que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Ça a attristé David. Mais Jérémie 17, 9 à 10 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut les sonder? Qui peut les connaître? Il n'y a que Dieu qui peut les connaître. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Frères et sœurs, quand on va vers
un bien-aimé, un rappel basé sur l'amour, sur la bonté, sur la miséricorde de Dieu est nécessaire lorsque nous allons vers les autres quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. N'allons pas n'importe comment, mais allons avec amour et faisons voir la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu. Nos péchés blessent profondément notre Dieu, notre Seigneur, parce que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Il nous a donné son Fils mourir sur la croix pour nous. Il nous a sauvés alors que nous méritions la condamnation. L'Éternel est bon, dit la parole de Dieu, et sa bonté dure toujours. Mais des fois, nous oublions cela et on se laisse aller dans les plaisirs du monde. Mais cela attriste notre Seigneur, comme Nathan qui était attristé pour David. La confession et le pardon de David. Dieu veut restaurer David parce qu'il n'a pas encore fini avec lui. Et comme on l'a dit au début, ce n'est pas David qui a cherché Nathan, mais c'est Dieu qui a intervenu le premier. C'est Dieu qui a pris l'initiative pour envoyer Nathan vers David. David confesse ses péchés. Ses péchés sont pardonnés. Au lieu de subir la peine de mort comme la loi l'exigeait en cas d'adultère et de meurtre, mais il reçoit miséricorde, grâce et pardon. Parce que la peine de David, c'était la peine de mort. Parce qu'à l'époque, lorsque vous commettez, selon la loi, lorsque vous commettez un adultère, l'adultère, vous êtes puni de mort. Et lui, il avait commis l'adultère. Il devait être puni de mort. Deuxièmement, lorsque vous commettez un meurtre, c'est-à-dire vous tuez quelqu'un, lui, il a fait tuer Uri, il méritait la mort. Donc, il y avait double peine pour le roi David. Mais, la parole de Dieu nous dit, au lieu de subir la peine de mort comme la loi l'exigeait, David reçoit miséricorde et grâce de l'Éternel. Il a avoué son péché, il s'est repenti et reçoit le pardon. Et comme l'a dit notre pasteur lors du premier culte, vous pouvez trouver la confession de David dans le psaume 51. Vous verrez comment il a fait sa confession devant l'Éternel. Et vous verrez tout ce qu'il dit dans le psaume 21, et c'est très intéressant, vous pouvez aller lire cela à la maison. Nous n'avons pas le temps de lire ça, tout ça ici. Mais ce psaume 51 commence par ceci. Au chef de cendre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba. Et il commence sa confession là-bas. Lisez cela après à la maison pour continuer à approfondir la parole de Dieu. Seul Seigneur peut résoudre les problèmes du péché. Lui seul peut enlever ce mal dans nos vies. La seule solution au péché, c'est de le porter devant le Seigneur. Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. » Et David a dit au verset 23, j'ai péché contre l'Éternel. Il a avoué ses péchés. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Voilà la bonne nouvelle pour David. C'est ainsi que Dieu opère toujours. Lorsque le péché est confessé sincèrement et honnêtement, Dieu pardonne. Ce n'est pas lorsque le péché est confessé des bouts de lèvres, non. Lorsque le péché est confessé sincèrement et honnêtement, Dieu pardonne. David avait gardé son péché caché dans son cœur pendant très longtemps. Personne n'était au courant de ce péché, à part Dieu. Mais cela ne signifie pas que ce moment secret était une période paisible pour lui, non. Le moment où il gardait son péché secret n'était pas une période de tout repos, de paix. Non, jamais. Car
à chaque fois où il s'est rencontré avec Bathsheba, à chaque fois qu'il voyait Bathsheba, nous pourrons dire que la culpabilité, sa culpabilité, ou leur culpabilité, faisait des allers-retours. Je ne sais pas que, si l'expression que j'ai utilisée est bonne, mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, la culpabilité faisait les allers-retours dans leurs yeux, entre les yeux de David et entre les yeux de Bathsheba. Quand Bathsheba voyait David, aïe, le péché revenait. Quand David voyait Bathsheba, cette culpabilité revenait. Ce n'était pas une période de tout repos, de joie, de calme. Non, non du tout. Il n'y avait pas de joie entre eux. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de bonheur. Il n'y avait que douleur et culpabilité. Et la culpabilité devrait être, à un moment donné, la culpabilité devait être insupportable. Vous savez, quand vous avez un problème là, ça revient. À un moment donné, non, mais je vais craquer. C'était une période qui n'était pas une période de bonheur. Et chers frères et sœurs, c'est la même douleur, la même souffrance pour tous ceux qui essayent de cacher leur péché en silence aujourd'hui. C'est la même douleur, la même souffrance si tu essayes de cacher ton péché, si tu as un péché que tu caches en silence dans ta vie, c'est la même douleur, la même souffrance. Tu ne seras jamais en paix. Parce que cela va revenir à chaque fois dans ton esprit. Et David lui-même a dit cela, après sa confession, après avoir demandé pardon à Dieu. David lui-même reconnaît que c'était une période qui n'était pas tranquille pour lui. Il est dit dans le psaume 32, à partir du verset 3 et 4, voici ce que David dit pendant cette période-là où il gardait son péché en silence, en cachette. Psaume 32, à partir du verset 3, il dit ceci: « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il n'était pas calme. Ça revenait. Chers frères et sœurs, si vous êtes dans ce cas-là, frères et sœurs, faites comme David. Allez vers votre Seigneur. Confessez votre péché. Et le Seigneur, il est juste et fidèle pour vous pardonner, pour nous pardonner de tout péché. Ne gardez jamais un secret, un péché secret dans votre vie. Ça ne sert à rien. Ça va vous ronger. Ça va vous prendre toute la paix que vous pouvez avoir en Christ. Enfin, David est pardonné, purifié. Il retrouve sa joie. Quand il a demandé pardon, quand il a confessé son péché, il a retrouvé le bonheur, la joie. Et lui-même le dit, toujours dans le psaume 32, il dit ceci: « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. » Voilà, après avoir confessé son péché, David est pardonné. David a retrouvé le bonheur, David a retrouvé la paix. C'est ce que nous devons faire si nous remarquons qu'il y a quelque chose en nous. Si dans le monde, les païens même le font, hein, les païens même le font. Un jour, j'ai lu un reportage dans Google. Un homme qui disait que j'ai gardé cela pendant des années. Mais maintenant, je dis non, je dois dire la vérité. Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il dit non, j'ai voulu me débarrasser de ce poids dans mon cœur. Frère, on ne garde jamais un péché secret pendant trop longtemps. Il faut toujours l'exprimer, le dire, afin que vous puissiez être libéré. David a fait cela et David a été pardonné, purifié. Pour finir, frères et sœurs, personne ne pêche dans le vide. Vous pouvez penser que votre péché n'affectera personne d'autre que vous-même. Détrompez-vous. Parce que dans l'histoire de David, nous voyons que Dieu a permis à l'enfant de David et Bathsheba de tomber malade et de mourir. Dieu a permis cela. Et de mourir. Malgré que David a prié pour l'enfant, mais l'enfant est mort comme Dieu l'avait dit. Voilà les conséquences de son péché. Et il n'y a pas que cela. Si vous lisez le chapitre 13, vous lisez même ces femmes ont été livrées en public. Même son fils. Donc, lisez, on n'a pas le temps de lire encore le chapitre 13, mais lisez la suite. Vous verrez les conséquences de son péché secret. Les dégâts que cela a fait dans sa famille. Quand vous péchez, quand nous péchons, cela peut toucher notre famille. Cela peut toucher même l'église. Cela peut toucher même nos amis, notre travail, notre entourage. Et la liste est longue. Le péché peut être caché pendant un certain temps. Mais finalement, la vérité sortira. La vérité sortira. Et quand la vérité va sortir, les péchés et les pécheurs seront exposés au grand jour, comme David. Son péché et lui-même le pécheur, ce qu'il a fait, a été rendu public. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre vie, chers frères et sœurs? Alors, que faire lorsque nous péchons contre Dieu? La seule chose à faire, c'est de confesser et d'abandonner ses péchés. Une confession sincère, honnête, qui vient du fin fond de nos cœurs, de notre cœur, confesser et abandonner les péchés. David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Essayer de couvrir les péchés ne fera que vous plonger davantage dans le péché. Parce que plus que vous couvrez ce péché va encore engendrer un autre péché. Et un autre péché va encore engendrer un autre péché. Et après, il y a toute une liste de péchés qui va sortir. Et un jour, toute cette liste sera rendue publique. Parce que ces péchés, et vous, les pécheurs, vous serez exposés au grand jour. Pour finir, chers frères et sœurs, nous allons finir par ces paroles du Seigneur dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, qui nous dit, si nous confessons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur bénisse sa parole.